Et on va parler vaccination, puisque finalement, elle est ouverte sans limite d'âge pour les doses non utilisées à partir du 12 mai. On revient sur les conséquences dans les cabinets des médecins. Jacques Battistoni est avec nous, président du syndicat des médecins généralistes, MG France. Bonjour.
Oui, bonjour Jacques Battistoni.
Bonjour.
Qu'est-ce que ça va changer pour les médecins généralistes qui vaccinent donc en cabinet hein ? On parlera des vaccinodromes après, mais dans les cabinets.
Les annonces du président de la République, là, elles ne vont rien changer du tout.
Non ?
Non. Non, parce que en fait, nous, on vaccine les plus de 55 ans. Donc, élargir la vaccination à des plus jeunes ou donner la possibilité de prendre rendez-vous le soir s'il y a des places disponibles pour le lendemain, pour les plus jeunes, là encore, ça n'a pas d'intérêt. Aujourd'hui, les médecins généralistes, comme les pharmaciens, comme les infirmiers, on a les vaccins Astra pour les plus de 55 ans. Donc, ces annonces, pour nous, elles n'ont pas d'impact.
Elle n'a pas d'impact, ça ne va rien changer. Parce que vous n'allez pas être concerné par les autres vaccins qui arrivent et qui sont là, les Moderna, les Pfizer.
Oui, si, on va avoir les vaccins Moderna, enfin, on devrait avoir des vaccins Moderna. On les demande depuis des mois et on nous annonce qu'on va enfin les avoir à partir de ce mois de mai, en commençant par certaines régions, les régions les plus exposées au virus, et ensuite avec une généralisation France entière. Mais mes collègues, comme moi-même, ces vaccins Moderna, on les attend et on ne les a pas encore.
Donc, pour vous, c'est ce que vous dites, hein, ce n'était pas simplement de l'ironie, parce que j'en sentais un tout petit peu, en fait, chez vous, mais non, c'est-à-dire que ça ne va pas forcément changer. Donc, ceux qui vaccinent vont continuer de vacciner, selon la procédure, en fait, habituelle que vous avez, là. Et puis, ceux qui ont décidé d'arrêter, hein, il y a quelques semaines, parce qu'ils étaient un petit peu débordés ou ça ne fonctionnait pas bien, ils vont continuer de ne pas le faire, quoi.
Oui, tout à fait. Ça va. Il y a un peu d'ironie parce qu'effectivement, tous nos patients vont nous interroger en nous disant alors ça va pouvoir changer. Et en pratique, on va devoir leur répondre eh ben non, pour nous, ça ne change rien. Parce que les vaccins, pour l'instant, ça reste des vaccins pour les plus âgés. Or, les plus âgés, ils ont déjà droit à la vaccination depuis plusieurs semaines. Oui. Donc, il n'y a pas de véritable changement.
Oui, enfin, sauf qu'attendez, pardon, mais c'était les plus âgés, c'était les plus de 55 ans. Là, ça va passer quand même à 50 ans. Donc, c'est une nouvelle tranche d'âge, quoi.
Oui, c'est une nouvelle tranche d'âge, mais vous savez sans doute que le vaccin Astra n'a pas une très très bonne presse dans la population, et donc c'est relativement difficile de prescrire du vaccin Astra, alors que les gens disent « Ah ben non, finalement, moi je préfère avoir un vaccin ARN, et donc je vais aller dans un centre de vaccination. »
Oui, et ça continue, cette mauvaise presse pour AstraZeneca, ou alors est-ce que, ça s'est un petit peu tassé et calmé ?
Vous avez raison, ça s'est un petit peu tassé. C'est encore présent dans l'esprit de pas mal de personnes, mais d'autres se disent, après tout, c'est pas sûr non plus que le vaccin Pfizer, il n'y ait jamais, jamais de réaction. Et donc, on arrive à une réaction un peu plus équilibrée. Néanmoins, on a un déficit avec ça. C'est pour ça qu'on demande à avoir des vaccins ARN et donc du Moderna dans nos cabinets.
Oui. Bon, écoutez, Jacques Battistoni, on va suivre. Pour l'instant, il n'y a pas de... Vous avez quand même des stocks. Tout arrive à peu près en ce qui concerne l'AstraZeneca.
Oui, alors les médecins sont un peu découragés. Vous avez fait part de ceux qui avaient envie, qui avaient arrêté.
Ah mais non, mais il y en a qui ont arrêté, c'est vrai.
Ils ont arrêté parce que certains ont eu des approvisionnements très irréguliers. Ouais. Parfois, ils ont commandé des vaccins, ils n'en ont pas eu pendant une, deux, trois, voire même trois semaines, avec des rendez-vous qu'ils ne pouvaient pas honorer, donc c'est relativement décourageant.
Oui, et puis en plus de ça, ils passaient leur temps aussi, parfois quand il y avait des annulations, à téléphoner à des patients, quoi, pour leur dire « venez ».
Tout à fait. On a eu un petit peu de déprogrammation environ. J'ai repéré cette semaine 3 patients sur 10. Alors ça, on a relativement réussi à gérer en reprenant d'autres patients qui étaient sur. On avait des listes d'attente.
Un dernier mot. Est-ce que vous êtes favorable au pass sanitaire?
Le pass sanitaire, il va s'imposer à nous pour pouvoir faire un certain nombre de choses, notamment voyager à l'étranger. Tous les gens qui savent qu'ils vont vouloir prendre l'avion, ils savent qu'ils ont besoin d'un pass sanitaire. Ça crée des inégalités dans la population. La première inégalité, c'est de ne pas avoir accès au vaccin. Donc, imposer un pass sanitaire tant que chacun n'a pas eu la possibilité de se faire vacciner, à mon avis, ce n'est pas acceptable.
Ouais. Merci beaucoup, Jacques Battistoni, donc président du syndicat de médecins généralistes MG France, d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio.
Et puis on va revenir sur ce drame ce matin, le féminicide de Mérignac. Y a-t-il des défaillances dans le suivi du meurtrier ? Nathalie Thomasine est avec nous, avocate au barreau de Paris et spécialisée dans la lutte contre les violences infrafamiliales.
Oui, bonjour Nathalie Thomasine.
Bonjour.
Où est la défaillance, selon vous ? Parce qu'il a été, Mounir, condamné, incarcéré. Il avait bénéficié d'une mesure ensuite de placement extérieur, hein, après avoir effectué quelques mois de prison. Il avait tenté d'enlever Shainez et l'avait frappé le 15 mars. Hein, elle a porté plainte. Les policiers ne l'ont pas retrouvé. Donc, on a l'impression que finalement, il y a des défaillances partagées, si je puis dire, entre les services de la justice et de la police. C'est votre sentiment ou pas ?
Oui, tout à fait. On peut évoquer plusieurs défaillances, plusieurs dysfonctionnements. En fait, c'est toute une chaîne. Tout d'abord, on rappelle qu'il n'a été condamné qu'à 18 mois de prison, dont 9 avec sursis, alors que précédemment, il avait écrasé à 75% le larynx de Shainez. Donc, c'était une tentative d'homicide et non pas des violences conjugales volontaires simplement. Donc une condamnation trop faible déjà, par définition, une correctionnalisation, et puis il va ressortir au bout de 6 mois seulement, alors que c'est une véritable bombe à retardement. Donc on voit bien que il y a des défaillances, il y a des défaillances également dans le suivi judiciaire de cet homme, parce que les garanties de représentation, c'est-à-dire l'adresse qu'il avait donnée, finalement, il n'y était pas. Donc il n'y a pas eu de contrôle suffisant. Enfin, pas de bracelet anti-rapprochement. On nous explique qu'à l'époque, donc il ressort le 9 décembre, il n'y a pas en circulation de bracelet anti-rapprochement. Alors, beaucoup de retard, responsabilité du gouvernement, puisque finalement ces bracelets ne seront généralisés que le 31 décembre. Donc finalement, cette pauvre Shainez, elle n'a pas pu bénéficier de ce bracelet, et c'est quelques jours qui ont précipité le passage à l'acte. Enfin, je dirais qu'il y avait une possibilité de mettre en place, malgré l'absence de bracelet anti-rapprochement, de bracelet électronique avec une assignation à résidence. Et enfin, Shainez aurait pu bénéficier en tout état de cause d'un téléphone grave danger.
Ouais. Donc, un téléphone ou une protection en fait plus forte quand même, parce que des menaces à répétition, la violence exercée auparavant, vous l'avez dit, puisqu'il il n'en était pas à son coup d'essai, c'est assez étonnant quoi, de l'avoir laissé comme ça.
C'est ce que je vous dis. En fait, c'est une chaîne de dysfonctionnement. Et en plus, il faut reconnaître et souligner que cette femme avait fait tout le parcours, entre guillemets, de combattante. Elle avait déposé plainte à plusieurs reprises. Donc, on ne peut que s'émouvoir de ce qu'il s'est passé. Parce que c'est exemplaire, en réalité. Il faut tirer les conséquences de cela. On dit aux femmes, déposez plainte. Elles le font. Et pour autant, elles ne sont toujours pas protégées.
Ouais. Est-ce que vous pensez que si elle avait... parce qu'il y a le 3919, hein, c'est ça, ce numéro d'appel anonyme, là, et gratuit, qui doit être mis en place. Est-ce que ça aurait servi à quelque chose ?
Bien sûr que non, puisque ce numéro d'appel, il est inférieur en termes de protection à un dépôt de plainte. Donc là, en l'état, on voit bien qu'elle était allée jusqu'au bout du processus et qu'elle n'a pas su être protégée. Donc il y a une responsabilité et de la part du gouvernement avec ce retard de mise en place des bracelets anti-rapprochement, et il y a aussi des défaillances s'agissant du suivi socio-judiciaire de cet homme violent qui avait un profil criminologique particulièrement inquiétant.
Oui, merci beaucoup Nathalie Tomasini pour ces explications très très claires, avocate au barreau de Paris et spécialisée dans la lutte contre les violences intrafamiliales, et on vous pose de cette question justement aussi sur les réseaux sociaux. Hein. Est-ce que c'est de la responsabilité de la justice, de la police ou autre, bien sûr, puisque vous l'avez dit, il y a des responsabilités partagées même sur d'autres secteurs, et notamment cette mise en place du numéro et le gouvernement avec le bracelet, les autorités. Donc merci à vous.
Et dans un instant, Natacha Polodini reviendra sur la police, les trafics et surtout l'impuissance de toute cette organisation. Restez avec nous, c'est le Grand Matin Sud Radio, il est 7h20.